Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co. Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 402. Et aujourd'hui, on va poursuivre notre odyssée dans Todd Cursus avec tous les gens qui écrivent dans Todd Cursus. Denis Lamontagne avait eu la gentillesse de faire le lien, puis ça fait longtemps qu'on est partenaire avec eux. Et donc, et je lui ai demandé de mettre en évidence quelques personnes qui seraient représentatives de ce que Todd Cursus fait, qui est un outil de veille extraordinaire. Donc, je vous invite tous, une grosse partie gratuite. Donc, pour le découvrir, allez découvrir. Et il y a une partie payante pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et donc, il m'a dit, il y a une personne qu'il faut rencontrer, c'est Françoise Eckard. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Stéphane.
Eh bien Françoise, c'est quoi les thématiques sur lesquelles tu interviens dans ton cursus?
Donc moi, il y a deux grands domaines. Moi, je suis une spécialiste des bibliothèques. Donc il y a ce domaine-là, hein, que j'ai écrit plusieurs articles. Et puis l'autre domaine sur lequel qui m'intéresse vraiment et sur lequel j'approfondis beaucoup toutes ces dernières années, c'est tout ce qui est dynamique relationnelle, rapport entre êtres humains, notamment dans la collaboration de travail, dans la gestion d'équipe, dans la relation d'accueil aussi, parce qu'en bibliothèque, c'est vraiment un sujet important.
Exactement. Alors, si tu avais un article à citer qui est récent, ce serait quoi?
Donc le tout dernier, donc qui va bientôt pas m'être mis en ligne, s'appelle le contrat relationnel. Donc en fait,
D'accord.
c'est ce contrat que malheureusement on formalise pas toujours, qui cadre un peu la relation avant de commencer à travailler ensemble.
Exactement. Ben, j'invite tout le monde à aller regarder. Ça sort en général quand tu le produis, ça sort une semaine, 2 semaines après.
Donc là, normalement, celui que je viens il doit paraître vers la moitié du mois de mars, je crois. Il me semble que c'est le 16 mars la mise en ligne de ce dossier-là. C'est un dossier qui concerne les cadres et tout ce qu'on peut cadrer, formaliser.
Ah, très bien.
Notamment dans la pédagogie, puisque Todd Pursus est très centré pédagogie.
Exactement. Bah, donc j'invite tout le monde à suivre. Ça sera l'occasion de découvrir ton cursus pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vous dis pas que c'est dans 2 semaines parce qu'effectivement, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter, soit en direct, soit en replay. Mais dans ces cas-là, bah, faites-vous plaisir et allez vérifier. Vous tapez Françoise Eckard et dans ces cas-là, dans ton cursus, vous trouverez ces derniers articles. Donc Françoise, justement, on parlait de la bibliothèque. Quelles sont les spécificités pour la formation dans le monde de la bibliothèque?
Alors, les bibliothèques en France, c'est essentiellement des bibliothèques du secteur public. Il y a quelques bibliothèques privées, mais quand même, pour l'essentiel, c'est le secteur public. Donc, il y a des bibliothèques d'État et puis il y a des bibliothèques qui dépendent des collectivités territoriales. C'est en général ce que les gens connaissent, c'est-à-dire celles qu'on trouve dans sa commune, bibliothèque municipale, qu'on va appeler les bibliothèques publiques. On les appelle publiques parce qu'en fait, elles accueillent toute la population, sans aucune discrimination, ni d'âge, ni de sexe, ni de... Il n'y a aucune condition pour entrer dans une bibliothèque, en fait, hein. Et l'accès est gratuit. Après, quelquefois, les services peuvent ne pas l'être, mais en tout cas, l'entrée dans les lieux est gratuite. Et donc, évidemment, la formation, du coup, elle est essentiellement assurée par des acteurs du secteur public. Alors, il y a évidemment des cabinets privés qui peuvent intervenir, mais on a quand même beaucoup d'écoles et de centres de formation institutionnels qui délivrent aussi bien des formations initiales que des formations continues. Alors, on est sur des... Bon, c'est pas une très grosse profession, après, tout ça est toujours relatif, hein, mais on est sur à peu près 40 000 salariés du secteur public qui s'occupent de ces bibliothèques-là. Et il y a aussi 70 000 bénévoles, ce qui est assez spécifique, parce que dans les toutes petites communes, on n'a pas toujours les moyens de recruter des salariés. Donc la formation, elle s'adresse à tous ces publics-là. Alors quand moi je suis entrée dans le métier, il y a pas mal d'années maintenant, il y avait assez peu de possibilités de formation. Il y avait un peu de formation continue et puis il y avait deux, trois formations initiales. Maintenant, il y a toute une galaxie de formations, notamment universitaires, mais il y a aussi beaucoup plus de formations continues parce que c'est un métier qui se forme énormément. En fait, c'est un
D'accord.
métier où on renouvelle sans arrêt ses compétences parce que le rôle des bibliothèques, c'est de répondre aux besoins de la société, en fait. Et donc, comme la société évolue tout le temps, les bibliothécaires essayent d'évoluer tout le temps
Alors,
aussi.
est-ce que le rôle de la bibliothèque qu'on connaît, je crois que les bibliothèques avaient été créées au début de la Troisième République, ou je dis peut-être une bêtise? Les bibliothèques
Alors, il y avait
municipales, non?
jusqu'au début du XXe siècle, il y avait deux types de bibliothèques. Il y avait les bibliothèques pour les érudits, qui étaient surtout
Oui,
fréquentées
bien
par les
sûr.
gens fortunés. Et puis, il y avait les bibliothèques populaires, voilà, qui s'adressaient au peuple. Voilà. Et à partir des années 20-30, en fait, il y a eu une influence des États-Unis là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle la lecture publique en France, qui est un terme spécifique à la France, en fait, qui n'a pas de
D'accord.
traduction, qui s'est développée. Et donc, on a commencé à ouvrir des bibliothèques un peu pour tout le monde. Mais ça a mis quand même une série d'années. Et c'est vraiment à partir des années 60-70 qu'on a commencé à avoir des bibliothèques comme on les connaît maintenant. Les
D'accord, oui.
60-70 du XXe siècle. Hein.
Oui,
Donc, c'est vrai
c'est
que
vrai.
c'est assez relativement récent. C'est
Oui,
relativement récent
absolument.
qu'on puisse avoir des bibliothèques comme on les connaît maintenant et comme on peut les fréquenter maintenant, quoi.
Exactement, c'est un tiers-lieu, comme on dit aujourd'hui, vraiment intéressant. Alors, le métier du bibliothécaire, peut-être en quelques mots, parce qu'on dit c'est mettre en rayon, c'est un gondolier quelque part, c'est pas que ça, non?
Alors, en fait, il y a toute une série de métiers à l'intérieur des bibliothèques. Bon, c'est vrai que pour les gens, le bibliothécaire, c'est la personne qui est derrière la banque d'accueil quand on rentre
Oui, c'est
dans
ça.
la bibliothèque. Bon, en fait, derrière cette banque d'accueil, déjà, il peut y avoir toute une série de gens qui ont des fonctions diverses. Mais de toute façon, pour faire fonctionner une bibliothèque, maintenant, il faut savoir plein de choses. Donc, on a une diversité de profils qui sont entrés dans le métier. Avant, on avait essentiellement des gens qui, effectivement, achetaient des collections. Voilà. Et puis ensuite, les établissaient des catalogues. Et puis ensuite, prêtaient ça. Voilà. Bon. C'était bon. Et puis, il y avait à côté un peu d'actions culturelles, des expositions, des accueils d'auteurs. C'était relativement limité par rapport à la part traitement des collections. Aujourd'hui, ben, il faut faire vivre un site web, il faut faire vivre un réseau. Donc, la plupart des bibliothèques sont en réseau
Exactement.
municipal ou intercommunal. Donc, il y a des véhicules qui circulent, il y a une informatisation à mettre en place, on construit. Donc, il y a à suivre des bâtiments, il y a des gens qui s'occupent de maintenance dans les grosses structures. Il y a tout ce qui est lié, voilà, à la communication. Donc, on fait vivre des réseaux sociaux. On fait de l'éditorialisation. On présente les documents. Et puis, bon, il faut se dire aussi que, avec l'arrivée d'Internet et du numérique, les documents physiques, les livres, mais tous les autres documents, parce qu'il n'y a pas que des livres dans les bibliothèques, c'est devenu une part, enfin, l'emprunt est devenu une part relativement, alors je vais dire limitée, c'est peut-être un peu exagéré, mais on sait que maintenant, en moyenne, sur l'ensemble de la France, toutes bibliothèques confondues, il n'y a que 40% des gens qui prennent une carte de lecteur pour emprunter.
D'accord.
Mais il y a 60% de gens qui viennent quand même, et donc ils font plein d'autres choses. Donc ils
Et
viennent
donc
pour
ça devient un peu
travailler.
des animateurs, si on voit de plus en plus des événements qui sont créés, culturels ou autres,
Ouais.
c'est ça?
Ben, il y a alors. Donc il y a des gens qui vont dans les bibliothèques simplement parce qu'ils ont besoin d'espace et d'un peu de calme ou de voir du monde,
D'accord.
au contraire, comme les personnes âgées.
Bien sûr,
Donc,
oui.
elles vont lire sur place, par exemple, ou elles vont venir rencontrer des gens qu'elles connaissent et puis papoter, voilà, venir boire un café, parce qu'il y a de plus en plus de cafés
Ouais,
aussi.
exactement.
Et puis, les bibliothèques vont organiser tout un tas d'événements, effectivement, des débats, des conférences, des expositions. Il y a aussi des ateliers créatifs, donc on va en bibliothèque pour créer des choses. On peut, alors selon la taille des bibliothèques, elles n'ont pas toutes les mêmes moyens, mais vous pouvez y aller pour voilà, créer une BD, par exemple, ou créer de la vidéo. Il y a ce qu'on appelle des Fab Labs, où on va avoir des imprimantes 3D, donc on va aller apprendre à utiliser ça et à créer des choses avec. On peut avoir aussi, alors ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, là tu parlais de tiers-lieux. Les bibliothèques se sont beaucoup orientées sur tout ce qui était social, en fait. Et donc, on peut avoir des antennes de France Travail, de la CAF qui viennent à la bibliothèque et qui vont proposer un service à des horaires définis pour que les gens n'aient pas à aller à des dizaines de kilomètres. Donc, ils peuvent avoir comme ça une antenne. Donc, c'est pas toutes les bibliothèques qui font ça, mais dans certaines communes, on trouve ce genre de choses.
Ah, c'est
Et
bien,
puis, il y a
oui.
aussi beaucoup de formations. Dans les formations numériques, par exemple, les personnes âgées qui veulent continuer à dialoguer avec leurs petits-enfants éloignés, donc qui apprennent à utiliser des mails, à utiliser leur téléphone portable. Il y a aussi des partages dans certaines bibliothèques. On va faire du repère café à la bibliothèque et donc parler informatique ou apporter son moulin à légumes qui marche plus. Voilà.
Ah,
Il y a du prêt d'instruments de musique maintenant. C'est des choses qui se sont développées
d'accord.
assez récemment. Il y a aussi des grainothèques. On échange des graines. Il y a des bibliothèques qui ont des jardins. Donc on va apprendre à jardiner, on va en
Et
prendre
alors,
ses parents,
quand
et
on
voilà.
échange des graines, c'est sans doute pour les planter.
Oui, c'est ça,
Comment
oui.
les gens les rendent?
Ah bah alors là, je ne pourrais pas te donner les détails, mais
Ouais, c'est
bon,
un peu
on dit
délicat. Oui.
échange.
Oui.
On a ça dans
Oui,
les
oui.
communes, pas que dans les
Voilà.
bibliothèques. Donc effectivement, les gens, ils se prêtent mutuellement des graines,
Oui,
et la
exactement,
bibliothèque peut
c'est très
avoir
très
des
bien.
graines aussi.
Oui, bien
Et
sûr.
puis on revient avec d'autres graines, en fait, j'imagine que
Voilà,
c'est
exactement,
ça.
j'imagine. Voilà.
Mais donc,
D'accord.
en fait, c'est généralement un ensemble de choses avec un jardin, la possibilité d'apprendre dans le jardin, d'emprunter éventuellement des livres, d'utiliser des graines, d'avoir un conférencier qui va venir parler de ça. Donc, on est sur des offres de services
Oui. Ah
un
oui.
peu complètes, mais donc extrêmement diversifiées maintenant.
Exactement. Et alors, comment les compétences, parce que des gens qui étaient au départ qu'au guichet, comment est-ce qu'on les fait arriver avec une telle complexité dans les compétences?
Alors, on est dans une phase à l'heure actuelle de transition, de boomers qui partent en retraite peu à peu, et puis de jeunes générations qui arrivent. Donc, on n'a pas les mêmes besoins, parce qu'effectivement, quand moi je suis entrée dans le métier, les gens, ils venaient surtout parce qu'ils aimaient les collections. Ils venaient au métier à cause de ça, ils aimaient lire, et on ne leur demandait pas toujours s'ils aimaient les gens. Et aujourd'hui, ben voilà, la relation avec le public, c'est 70% du temps de travail, hein, dans la plupart des bibliothèques. Donc, c'est beaucoup du relationnel. Alors, les jeunes générations, elles le savent. Elles arrivent avec cette appétence-là. Et donc, elles ne vont pas forcément avoir besoin de tant se former là. Enfin, quoique, ça dépend quand même des personnes. Elles vont arriver aussi avec des compétences numériques que leurs prédécesseurs n'avaient pas. Mais donc, elles vont, voilà, il va falloir creuser sur certains aspects, certains outils qu'il faut apprendre à utiliser, certaines offres du service qu'on développe, par exemple, comme je disais, la Grainothèque, ben, éventuellement, il faudra se former pour ça. Ou si on a un public si on travaille sur l'illettrisme dans certaines bibliothèques ou sur la dyslexie, il y a des fonds qui ont été créés exprès pour ça, avec tout un voilà une manière de le mettre en valeur, des ateliers proposés autour, etc. Donc on va se former à la médiation.
Est-ce que finalement ça a été bien perçu par les gens? Et est-ce qu'il y a eu un programme, puisque tu disais que c'était beaucoup des fonds publics, est-ce qu'il y a eu un programme justement de transformation? Où chacun se débrouillait, quoi.
Eh ben,
Voilà,
un peu des
c'est
deux, on
ça.
va dire.
Voilà.
Un peu des deux. C'est-à-dire que dans les formations initiales ont évolué.
Ouais.
Parce que, évidemment, avant, c'était beaucoup la technique et beaucoup les collections. Peu à peu, on intègre quand même beaucoup plus le rôle social, la relation, le rapport avec les élus aussi, qui n'est pas toujours si simple, la communication. Moi, par exemple, j'anime des stages qu'on appelle advocacy. Ça veut dire être capable d'aller vendre, entre guillemets, la bibliothèque et expliquer en quoi elle est utile et pourquoi elle a besoin de moyens. Voilà. Donc, peu à peu, ça s'est un peu intégré les formations
D'accord.
initiales. Et bon, les formations continuent, elles se
Y
sont toujours
compris c'est
adaptées.
le fait d'être advocacy, donc
Ouais.
ambassadeur de la bibliothèque, est-ce que ça veut dire même chez les anciens?
Ah tout le monde est censé se former. Après,
D'accord.
il y a des équipes où vous avez des anciens et des modernes encore. C'est en train de. Je trouve que c'est en train de peu à peu se lisser ça. Il y a 5-6 ans, c'était très marqué. On avait vraiment une difficulté de passage avec certains personnels, et bon, il y en a encore, qui ont du mal à admettre que la bibliothèque, c'est plus simplement prêter des collections, diffuser du savoir, que voilà, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens se rencontrent, que des fois les gens viennent, ils ne vont pas du tout toucher aux collections, enfin plein d'autres choses, mais pas du tout toucher aux collections, et qu'on a plein de choses à faire là, mais voilà, certains personnels ont quand même du mal à admettre ça. On a l'impression que c'est devenu un supermarché ou McDonald's.
C'est un changement, hein,
Et
évidemment.
puis, dans la relation publique, c'est aussi beaucoup plus intense.
Bien sûr.
Et pour certaines personnes, c'est difficile, ça aussi, parce que c'est un accueil, il faut être très disponible. On est plus dans un rapport de co-construction, de pair à pair, comme dans un tiers-lieu, alors qu'avant, on avait un rapport plus sachant, non sachant, voilà, très institutionnel, beaucoup plus formalisé. Enfin, ça dépendait quand même toujours de la taille des bibliothèques, hein. Dans les toutes petites bibliothèques, on a un rapport de proximité avec les gens, ça a toujours été comme ça. Dans les établissements plus grands, ben voilà, c'est plus structuré, plus cloisonné. Et donc, effectivement, le rapport avec le public, quelquefois, est intense. Moi, j'anime des formations à accueil. Effectivement, les gens, des fois, ils sont fatigués. Hein, parce qu'il y a aussi des publics, évidemment. Bon, on est quand même en général sur des publics sympathiques, mais il y a des endroits où il y a des tensions, il y a des endroits où il y a des dérives, il y a même des fois du vandalisme, il peut y avoir de la violence
Bien
verbale.
sûr.
Voilà, et donc il faut que les personnels se forment aussi à ça. Et là, pour
Donc,
le coup, ça concerne tout le monde.
absolument. Donc, alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es à la fois sur des petites structures que tu vas voir, tu tournes sur le territoire, et à la fois sur des grosses structures. Donc, tu as un regard qui est riche. Tu disais que c'est ça, la bibliothèque socialisée, finalement. Et tu es un
Oui.
acteur de la socialisation. Et donc, quand il y a de la violence, ben, est-ce qu'ils sont formés à la violence, puisque tu parlais de la relation?
Ah ben, quand effectivement ils sont confrontés à ça, en général, oui, ils suivent des formations.
Après.
Bah, ça dépend. Des
Ouais.
fois, il y a une anticipation, c'est-à-dire
D'accord.
qu'avant que la bibliothèque ouvre, on y pense et on forme les gens, mais je t'avoue que ce n'est pas si fréquent. En général, c'est après, quand il y a eu des problèmes ou que les gens stressent trop. Ou quand on a cette transition, ce qui arrive assez souvent. Moi, je suis souvent intervenue dans ces cadres-là, où on a une bibliothèque qui fonctionnait de manière, entre guillemets, traditionnelle, avec un public un peu sélectionné, voilà, habitué, qui surtout empruntait, et qui la ville construit. On passe à une bibliothèque qui fait quatre
Ouais.
fois, cinq fois la même surface, et tout d'un coup, on a des publics qui arrivent, qui n'avaient pas avant, qui, eux, ont besoin d'apprendre aussi à utiliser le lieu, et puis des personnels qui ne se sont pas formés à les accueillir. Donc, par exemple, des groupes d'ados qui viennent avec leur
Ouais.
téléphone, voilà, s'installent là, font un peu le souk des fois, peuvent être un peu bruyants, s'occupent pas trop ni des personnels, ni des autres publics, ni des collections. Et donc, bah voilà, pour beaucoup de personnels, c'est compliqué. C'est un public avec lequel ils ont souvent du mal. Et puis, ben voilà, les espaces sont différents, ils sont plus vastes, il faut les gérer. Faut aller au-devant des publics, alors qu'avant on restait plutôt derrière sa banque d'accueil. Il y a une relation un peu d'un côté marketing. Faut quand même, voilà, pas simplement être à disposition, mais donner envie. Et donc, et
Bien
ça veut
sûr.
dire, voilà, aller vers les gens. Et ça, c'était pas non plus trop ce qu'on faisait. On attendait qu'ils viennent, quoi. Donc,
Et donc, et ça fait
quelquefois,
partie
oui, c'est difficile.
maintenant du référentiel métier.
Dans le discours, oui. Dans
Ouais.
le discours professionnel, oui. On a clairement basculé là, il y a 15-20 ans, sur l'usager au centre.
Oui, très bien.
Donc, voilà, on s'occupe avant tout des gens et les collections viennent ensuite. Dans les faits, ben voilà, ça se met en place progressivement. Il y a des bibliothèques, voilà, on est quand même encore dans un fonctionnement un peu à l'ancienne. Alors, on avait aussi un problème d'horaire d'ouverture, puisque les bibliothèques françaises ont été un peu la lanterne rouge européenne en matière d'horaire
D'accord.
d'ouverture. Donc ça a progressé, notamment parce que l'État a mis des financements en place, et puis que les élus, évidemment, veulent que leur bibliothèque soit le plus ouverte possible, à des horaires le plus pratiques possible pour les habitants.
Bien
Donc
sûr.
ça, voilà, ça évolue peu à peu.
Tu dirais qu'il y a une différence que tu as identifiée entre Paris-Province ou pas du tout?
Ah bah sur certains aspects, forcément, oui. Hein. Je veux dire, entre le très urbain et le très rural, forcément, il y a beaucoup de différences. Après, au niveau des horaires d'ouverture, bah oui, les grandes villes sont en général plus ouvertes.
D'accord. Ouais.
Voilà, on va vers, dans certaines, alors c'est pas encore la norme du tout, hein, mais dans beaucoup d'endroits, on va vers des 50 heures d'ouverture par semaine. Ce qui, pour nous, paraît beaucoup, hein, mais dans d'autres pays. Il y a des
D'accord.
pays où les bibliothèques sont ouvertes quasiment tout le temps. Donc, on a encore du chemin à faire. Donc, dans les grandes villes, oui, en général, on a quand même des horaires assez élargis et puis des horaires un peu à tous les moments de la vie, y compris le dimanche. Dans les communes rurales, bon, le dimanche peut paraître pertinent, mais pas toujours, parce que les gens ne sont pas forcément là. Et puis, on a des horaires plus restreints. Alors, dans les très petites communes aussi, parce que c'est plutôt des bénévoles. Et que donc les bénévoles, ben voilà, peuvent pas être là tout le temps. Donc sur les horaires, oui, c'est sûr qu'il y a des différences.
Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent la bibliothèque c'est un truc qui était bien au XXe siècle, mais finalement aujourd'hui, finalement ça a vocation à disparaître?
Alors en fait, je dis qu'ils sont totalement l'opposé. C'est-à-dire qu'en réalité, au contraire, les bibliothèques sont beaucoup plus essentielles maintenant qu'elles ne l'étaient.
Ah oui.
Alors. Quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas, bon oui, c'est sûr qu'aller dans une bibliothèque, c'était la possibilité d'accéder à de l'information. Aujourd'hui, l'information, on l'a autrement, c'est sûr. Maintenant, la manière d'y accéder, faire le tri, notamment éviter les fake news et ce genre de choses, c'est pas toujours si simple. Et donc, dans les bibliothèques, on trouve des formations, voilà, les bibliothécaires sont très préoccupés de ça, de la bonne information, voilà, d'aider les gens à se repérer. Mais c'est surtout au niveau social, enfin, de mon point de vue. Pour moi, ce que je dis aux bibliothécaires, notamment dans les stages advocacy, ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux élus, quand ils n'ont pas des fois compris avant les bibliothécaires, c'est qu'une bibliothèque, ça répond à plein de problématiques du moment. Dire, bon, le numérique, ça isole beaucoup les gens. Ben, les bibliothèques, c'est des lieux sociaux. C'est en fait, c'est le seul lieu vraiment gratuit, ouvert à toute la population, beaucoup ouvert et réparti partout sur le territoire. Parce que c'est des lieux de proximité, il y en a partout en France. Et c'est le seul lieu comme ça. Hein. Et donc, on peut aller dans une bibliothèque, on trouvera toujours quelqu'un à qui parler, on trouvera toujours des ressources. Les bibliothèques vraiment se sont positionnées, enfin, essayent de se positionner partout où il y a des besoins. Donc, ça répond à des problématiques d'isolement des personnes âgées, de réussite scolaire, d'insertion dans l'emploi, d'apprentissage des langues. Il y a les publics allophones, émigrés, qui ont besoin d'apprendre le français, mais il y a des choses dans les bibliothèques, de lutte contre l'illettrisme. En fait, voilà, moi, je dis souvent, une bibliothèque, ça répond à quasiment tous les sujets, sauf peut-être la voirie, et encore. Mais je veux dire, pratiquement toutes les problématiques que peuvent avoir des politiques aujourd'hui peuvent trouver des réponses dans les bibliothèques.
Est-ce que dans les bibliothèques, les formations que pour le personnel de la bibliothèque sont toutes en présentiel ou il y a
Alors
des choses en
ça
distanciel?
bouge évidemment parce que bon, il y a des questions de moyens. Il y a quand même des pressions faites pour réduire les effectifs, hein, réduire les effectifs de fonctionnaires. Donc, les gens n'ont pas la disponibilité qu'ils pouvaient avoir avant. Donc, il y a beaucoup de choses qui, alors depuis le Covid, hein, ça c'est aussi, on le sait, hein, en général, pour la formation, il y a beaucoup plus de choses qui se font en ligne. Il y a des webinaires, donc il y a des versions plus courtes. Il y a beaucoup de journées d'études dans les bibliothèques. Donc, c'est aussi un moyen de se former. Quand on ne peut pas aller 3 jours de rang, suivre une formation présentielle, bon, les gens vont suivre des journées d'études, dont certaines se font aussi en ligne maintenant. Et puis, ce qui se fait, alors, il y a un niveau de bibliothèque que généralement les gens ne connaissent pas, qui dépend des départements, les bibliothèques départementales ou médiathèques départementales, qui ont vocation de centre de ressources pour les bibliothèques des communes du département et qui assurent des formations beaucoup. Et là, ces formations-là, donc elles étaient en présentiel classiquement, elles sont de plus en plus délocalisées aussi. On va aller les faire sur le terrain directement auprès des gens qui en ont besoin, en fait, par exemple dans les intercommunalités. Donc dans les réseaux de bibliothèques, on a pas mal de bénévoles, des petites bibliothèques rurales, les gens ne se déplacent pas facilement. Du coup, on va aller dans les locaux aider les gens. Et puis après, ben vous avez, voilà, il y a aussi des outils qui sont mis en ligne. Alors des tutos vidéo, j'en ai pas encore vu beaucoup, mais voilà, il y a des outils utilisables que les gens vont trouver aussi en ligne. Donc il y a tout un tas de formes, comme dans le secteur privé, hein, on va trouver, voilà, l'imagination est à l'œuvre pour essayer de répondre au plus près des besoins qui sont très évolutifs, hein, ces dernières années.
Est-ce que le personnel de la bibliothèque est, par exemple, connecté au LLM, à ChatGPT? Est-ce qu'il travaille avec? Est-ce que c'est quelque
Ah ouais,
chose qui
alors,
a...
l'intelligence artificielle est le gros sujet de tout le monde.
Exactement, c'est
Et
ça,
donc,
hein?
forcément, des bibliothécaires aussi, puisque ça a trait à l'accès au savoir, au tri entre la bonne et la fausse information, et puis aussi à se faciliter la vie, hein, puisque l'IA, elle est aussi là pour ça. Donc, c'est le gros sujet. Il y a plein de journées sur le sujet, oui, bien sûr. Après, voilà, comment ça va pouvoir être utilisé, à quelle place ça va prendre, ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas
Bien
que dans les
sûr.
bibliothèques qu'on ne sait pas encore.
Et ça veut dire que le personnel est déjà formé à utiliser, alors j'ai ChatGPT pour être populaire, mais les LLM, et donc ça veut dire qu'ils savent comment le faire, à la limite ils peuvent transmettre. C'est un lieu où on capitalise là-dessus, sur des pratiques, où ils sont vraiment en phase de découverte en disant chacun se débrouille un peu tout seul.
Ben, je pense que c'est variable. Il y a des gens qui se sont passionnés tout de suite.
Oui.
Il y a beaucoup de geeks, hein, dans les bibliothèques et donc
Ouais.
il y a beaucoup de gens qui tout de suite développent, apprennent, vont chercher de l'info et il y a une tradition de retransmission. C'est-à-dire qu'on travaille énormément en réseau, en bibliothèque, non seulement à l'intérieur du pays, d'un territoire à l'autre, mais aussi de manière internationale. Hein. On se connaît dans le monde entier, il y a une fédération internationale et donc le savoir circule beaucoup et
Ah oui,
il
c'est bien
y a
ça.
des articles, on a Voilà, alors pas toute la profession évidemment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui écrivent des articles professionnels. Et donc dès que quelqu'un s'empare d'un savoir, en général, voilà, ça circule. Donc après, il va y avoir des bibliothécaires qui vont vraiment s'intéresser à ça et des établissements qui veulent le développer, qui veulent en faire un outil et donc qui vont former leur personnel. Et puis ben, d'autres endroits où ce sera plus lointain, ça viendra plus tard, où ils ont d'autres priorités. Donc voilà, mais disons que c'est un des gros sujets, ça c'est clair. L'intelligence
Et
artificielle et le numérique en général.
ça se passe plutôt bien, ou tu dis il y a beaucoup de résistance au changement. C'est des gens qui sont un peu plan-plan.
Non, disons que il y a des sujets sur lesquels il y a tout de suite de l'enthousiasme et tout ce qui est voilà. Il y a beaucoup d'intérêt quand même pour le numérique, la technique.
Ouais, d'accord.
Voilà. Sur d'autres sujets, voilà, ça peut aller moins vite. Et puis. Ouais, il y a des personnels qui ont du mal. Bon, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, on a introduit la RFID, par exemple, dans les biothèques. Donc, au lieu de mettre des codes barres sur les documents, on mettait des puces. Ce qui permettait d'une part de retrouver les ouvrages à plus de distance, c'est-à-dire, voilà, enfin, puisque c'est des ondes radio, donc ça facilitait la gestion.
Bien sûr.
Et puis, ça entraînait une autre forme d'accueil, puisque du coup, on pouvait mettre en place des automates. Donc, il y a beaucoup de bibliothèques maintenant qui mettent en place des automates, ce qui fait que les usagers gèrent tout seuls. Alors, bon, s'il y a un problème, ils sont aidés, évidemment. Mais le prêt, le retour des documents, et du coup, les personnels peuvent se consacrer à la relation. Dans le
Ouais, très bien.
principe, c'est comme ça.
Bien sûr.
Dans la réalité, ben, quelquefois, il y a eu des économies de personnel de fait, du coup. Et puis, bon, ben, là, il y a encore pas mal de gens qui ont du mal avec cet outil-là, qui pourtant se généralise, hein, mais voilà, forcément, il y a toujours des personnels qui ont du mal avec certaines choses et d'autres pas, hein. Mais voilà, disons que c'est quand même une profession qui cherche tout le temps à se renouveler et à se
Ah,
former.
très bien. Donc c'est pas le
Donc
rat
ils
de
sont un peu toujours à
bibliothèque.
la pointe de tout ce qui arrive en matière d'outils.
C'est pas l'image du rat de bibliothèque, c'est ça que je voulais aborder en disant c'est quelqu'un qui est dans ses livres, donc il est d'abord dans le multimédia, parce qu'aujourd'hui ça bouge dans beaucoup
Ouais,
de choses. Et puis dans
ouais.
le social, c'est-à-dire qu'en fait, il a une façon d'aborder et de permettre aux gens de se rencontrer dans un lieu commun.
C'est ça, exactement. Oui, exactement.
Est-ce que
Donc
les
cette question, par
entreprises...
exemple, du lieu
Oui.
commun est un sujet de débat aussi, ouais. Qu'est-ce que c'est
Ouais.
le lieu commun? Comment j'ai écrit un article sur Topcursus là-dessus, sur ben voilà, on fait de nouveaux espaces plus grands avec plein d'outils qu'on met à disposition, avec une bonne volonté d'accueillir tout le monde. Ben voilà, comment on gère la relation collective à l'intérieur de ce lieu? C'est pas forcément si simple. Quelles sont les règles qu'on peut mettre en place? Voilà, c'est un sujet aussi. Ouais.
Exactement. C'est un territoire apprenant vivant. Et donc, à partir de là, bah, il faut poser des règles. Et puis, construire quels sont le fonctionnement, quel est le commun d'abord. On accepte tout le monde. Et justement, dans cette acceptation tout le monde, est-ce que les entreprises peuvent. Ça a du sens que les entreprises s'associent avec les bibliothèques?
Alors en France, on a du mal avec la collaboration publique-privée, toujours un peu laborieuse. Mais disons que sur le principe, il y a non seulement aucun obstacle, mais c'est même plutôt bienvenu, hein. Ça se fait moins en France que dans les pays anglophones, mais bon, ça arrive qu'effectivement, il y a des espaces de coworking qui se créent dans certaines bibliothèques. Hein. Et puis il y a des fois des accueils d'entreprises qui vont utiliser, on leur met à disposition un espace. Je sais qu'il y a des bibliothèques qui faisaient des petits déjeuners d'entreprise. Voilà, donc ça peut arriver. Après, il y a plutôt ces collaborations avec les partenaires institutionnels comme avec France Travail ou avec la Maison de l'Emploi ou pour les créateurs d'entreprises. Il y a certaines, par exemple, à Bordeaux, ils ont développé une offre de service pour les créateurs d'entreprises
D'accord.
dans la médiathèque. C'est beaucoup plus rare que sur d'autres sujets, mais ça existe. Il y a des bibliothèques qui vraiment cherchent à s'en emparer, aussi parce que les élus du coin trouvent que c'est une priorité, qu'il y a des choses à faire là. Et de fait, il y a des choses à faire là, hein. Mais c'est un moins évident au goût
C'est
du
une question de
public,
volonté
moins évident.
politique, quoi. Bah
Oui.
justement, toi qui as de l'expérience dans le métier, à 5-10 ans, tu vois l'avenir de des bibliothèques, tu vois comment?
Alors, bah on continue d'en construire et on continue par ailleurs dans le secteur public à avoir une baisse des moyens. Donc, moi, je pense que c'est quand même des lieux qui vont être de plus en plus investis par la population aussi. Parce que
D'accord.
voilà, c'est des lieux, de, comme on disait, de rencontres, des lieux où il se passe beaucoup de choses.
Qui avant était le café, le café où on rencontrait les gens.
Voilà, oui. Il y a, bon, à une époque, il y avait eu une étude là-dessus sur les raisons d'aller à la bibliothèque, et la quatrième raison, c'était de draguer.
Ah, d'accord,
Parce
c'est très
qu'en
bien.
fait, c'est un public un peu trié sur le volet. Donc, et on
Ah
s'aperçoit que, par exemple, les
ouais.
seniors, les personnes âgées isolées, les gens qui sont veufs, qui sont un
Ouais.
peu tout seuls chez eux, ben en fait, ils viennent copiner à la bibliothèque, ils retrouvent les gens qu'ils connaissent, ils viennent papoter. Alors, il y a beaucoup de jeux aussi maintenant à la bibliothèque, hein, des jeux de société, mais aussi des jeux vidéo. Et donc, les gens peuvent venir jouer, ou effectivement, ils viennent juste au café, parce qu'il y a un café, et ils viennent lire le journal ou discuter avec des gens qu'ils connaissent, jouer aux dames. Enfin bon, ou à d'autres trucs. Et donc, effectivement, oui, il y a ce côté-là. Et ça, je pense, c'est appelé à se développer parce qu'il y a un manque de plus en plus flagrant dans le reste de la société d'espace libre, tranquille. On ne vous demande rien, vous n'avez pas besoin de monter à patte blanche. Vous pouvez venir si voilà, vous avez envie de voir du monde, ou même au contraire, s'il y a besoin d'une bulle de tranquillité. Il y a des étudiants qui vont dans les bibliothèques parce qu'ils n'ont pas de chambre chez eux. Ou parce qu'ils partagent leur chambre avec leurs trois frères, quoi. Et donc, ils viennent à la bibliothèque parce que ben ils ont un peu de calme, ils peuvent s'isoler aussi. Le challenge de l'aménagement des espaces, c'est de prévoir les deux. C'est-à-dire que les gens puissent venir en groupe, puissent venir tout seuls, puissent avoir du calme, puissent avoir de la rencontre, profiter d'un espace où ça bruisse un peu, où il y a des petits mômes qui sont en train de jouer, des petits bouts de chou, voilà, et donc aimer ça, ou au contraire, trouver un endroit, ils vont lire tranquillement, on les dérangera pas, ou venir travailler sur l'ordinateur portable, ils trouvent la Wi-Fi, du chauffage ou de la clim selon la période de l'année, et on leur fout la paix. Et donc, moi, je pense que tout ça a beaucoup d'avenir parce que c'est des besoins. On a aussi un besoin qui monte en puissance, c'est que tout passe au numérique, les sites internet passent au numérique, les institutions passent au numérique, mais on s'occupe pas trop de savoir comment les usagers font. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans les bibliothèques pour se faire aider là-dessus, pour arriver à faire leur déclaration d'impôt. Alors, il y a des maisons, comment on les appelle déjà, les maisons de service que l'État a créées avec des conseillers numériques, mais il n'y en a jamais assez par rapport aux besoins. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans les bibliothèques. Là.
Et ceux qui forment, ce sont les bibliothécaires eux-mêmes,
Alors,
ou
ça
ils
peut dépendre
externalisent.
aussi. Ça peut être des bibliothécaires qui se sont formés, que ça intéresse,
D'accord.
ou ça peut être des sous-traitances, des partenariats qui sont passés par la bibliothèque avec des associations, par exemple, voilà, ou même avec France Numérique et les conseillers numériques, où on va avoir quelqu'un qui va venir à horaire fixe une fois par semaine, qui vient d'extérieur. On lui met à disposition le matériel nécessaire et l'espace, et il gère. Voilà. Donc, il y a toutes les formes, en fait, hein. Il y a pas mal de partenariats, de sous-traitance. À un moment donné, les bibliothécaires est considérés comme des couteaux suisses, en fait.
Ah
Ils
oui, c'est
répondaient
ça.
à tous les besoins eux-mêmes. Peu à peu, on s'aperçoit que ben voilà, il y a beaucoup de choses à savoir, donc on collabore avec d'autres métiers.
Et déjà, être organisateur de ces lieux, c'est une compétence en soi.
Mais oui.
C'est-à-dire
Il y
aller
a
chercher des gens, des
l'organisation,
associations.
il y a la gestion des espaces, il faut avoir des outils qui fonctionnent, et questions de sécurité aussi, hein, et des règles, des lois à faire respecter. Donc, c'est assez sophistiqué d'équiper une bibliothèque avec tous les matériels nécessaires. Et puis, il faut aussi faire la com. Hein. Ben voilà, ça, les bibliothèques s'en chargent. Puis après, il faut accueillir les gens, et donc gérer l'accueil, la répartition, veiller aussi à la sécurité, etc. Donc ça descend. Même si on fait pas soi-même, si on propose pas soi-même l'offre de service, qu'on fait venir quelqu'un, ben, il y a quand même tout ce qu'il y a autour à gérer, quoi.
Et c'est peut-être même mieux d'ailleurs, parce qu'un territoire apprenant où on apprend plein de choses, ben, c'est le territoire qui est important. Puis après, au lieu de se dire c'est moi qui apprends à tout le monde, ben, on prend des talents qui eux-mêmes vont essaimer différemment et on devient
C'est
un
ça.
catalyseur du talent des autres.
C'est ça, c'est ça. Et donc, ça se faisait beaucoup avec des artistes, avec voilà, des créateurs. C'était une relation traditionnelle. Maintenant, bah, c'est aussi des conférenciers, voilà, d'autres formes de sachants, et puis des gens qui savent transmettre tel ou tel savoir. Par exemple, les jeux. Bon, sur les jeux, Bon, il y a bibliothèques qui font tout eux-mêmes, elles-mêmes, qui achètent les jeux, qui les prêtent, qui animent des soirées jeux. Bon. Mais on a aussi des gens qui se sont fait le métier de promouvoir les jeux et donc qui sont animateurs de soirées jeux. Donc ils viennent avec leurs jeux, ils animent la soirée, éventuellement ils peuvent animer un atelier pour présenter un jeu, pour expliquer aux bibliothécaires comment il marche, etc. Et puis ils repartent. Donc y a, voilà,
Et
y a la
c'est
possibilité de
intéressant
faire comme
pour
ça
eux parce que
aussi.
derrière, ils se font connaître.
C'est ça, bah oui.
Oui, c'est
Oui,
ça,
parce que c'est
absolument.
des. Bon, en général, les collaborateurs, moi, dans une bibliothèque que j'ai dirigée il y a quelques années, on travaillait avec des artistes beaucoup. Il y avait un artiste chaque année à qui on donnait carte blanche et donc qui proposait toute une série de choses sur l'année. Et il y en avait un d'entre eux qui était musicien, en fait. Il disait, mais en fait, c'est des espaces super parce qu'il y a beaucoup de liberté par rapport à plein d'autres endroits. Il y a les moyens en termes d'espace et d'équipement, en général.
Exactement.
Et donc pour un artiste, c'est vraiment un espace de jeu et de création assez extraordinaire. Ce qui fait que quand les gens découvrent ces espaces-là, les différents partenaires qu'il peut y avoir, en général, ils tombent en amour avec le lieu, parce que c'est quand même très open, et puis qu'on rencontre tout le monde, tous les types de
Exactement.
population, de tous âges, de toutes préoccupations.
Et puis pour les gens dans la bibliothèque, les métiers qui sont à l'intérieur de la bibliothèque, c'est assez extraordinaire de s'ouvrir et donc de ne pas rester entre soi avec un même référentiel. Et on découvre, tu citais des artistes, c'est extraordinaire de rencontrer des gens qui font de l'art, qui créent à leur façon, quel que soit l'outil et le support, c'est magique.
Ben oui. Oui, parce que ça, ben, c'est dans tous les domaines, donc c'est aussi dans le domaine musical. Par exemple, cet artiste dont je parlais, il avait créé une musique exprès pour la bibliothèque, ce qu'il appelait de la musique d'ascenseur. Et en fait, l'idée, c'était qu'on déclenche cette musique de manière aléatoire dans la journée. Ça interpelle un peu les gens, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, voilà. Mais il avait créé exprès pour nous un
C'est génial.
morceau. Et donc oui, un des intérêts de ce métier, c'est l'énorme diversité, en fait. On peut faire, voilà, des tas de choses. Moi, au cours de ma carrière, voilà, bon, j'ai commencé en bibliothécaire classique, acheter des livres et les prêter. Voilà, c'était ça au tout début. Après, j'ai organisé un centre de formation parce que j'ai travaillé en bibliothèque départementale. Donc, on a lancé un centre de formation. Donc, je me suis mise à faire de la formation. Après, j'ai été responsable informatique parce qu'on informatisait et c'était des logiciels qui démarraient. Donc, il fallait aussi les expérimenter, puis former les autres, etc. J'étais chargée de projet. Puis après, j'ai dirigé des établissements. Donc, là, j'ai fait de la gestion d'équipe. Voilà. Puis, il y a des gens, ils font de la com, du graphisme. Dans une bibliothèque que j'ai dirigée, on a lancé une petite revue imprimée. Donc, on travaillait avec le service com. On écrivait des articles. Voilà, ça peut être extrêmement divers. Ce qui fait que de plus en plus de politiques comprennent l'intérêt qu'il y a là et demandent aux bibliothèques de plus en plus de choses. Alors, quelquefois, il n'y a pas tous les moyens nécessaires et on a quand même beaucoup d'endroits où les gens ont tendance à s'épuiser parce qu'ils veulent être présents pour le public. Ils veulent répondre à tout ce qu'on leur demande, donc les dix collaborations diverses. Il y a des bibliothécaires municipaux qui vont dans les prisons pour aller prêter des documents ou faire des animations pour les prisonniers, qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les maisons de retraite, qui vont dans les crèches. Et donc, ils se déplacent à l'extérieur. Les horaires, voilà, il peut y avoir des choses le soir, il peut y avoir des choses le samedi, il peut y avoir des choses le dimanche. Et potentiellement, il y a des tas de projets qui peuvent être assumés, mais effectivement, il n'y a pas toujours les moyens en personnel. Et donc,
Exactement.
voilà. Alors, il y a du tri à faire des fois, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire pour en faire d'autres. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, c'est un métier en or, en fait, très, très, très intéressant à exercer et qui a des tas de potentialités par rapport aux problématiques de société d'aujourd'hui, clairement.
Exactement. Ben merci beaucoup. C'était passionnant sur un métier qu'on ne connaissait pas bien, les métiers de la bibliothèque. Et donc, ça veut dire qu'on avait souvent des archétypes. Hein, ils sont tous bons, mais là, tu nous as montré que c'était un métier passionnant parce qu'il vivait, il s'adaptait à la société. Et puis derrière, il avait quelque chose, un projet à porter en disant réunissez-vous et on a le lieu. Il reste plus qu'à avoir les gens qui viennent et les bibliothécaires qui sont des animateurs sociaux, des créateurs de sociétés, de mise en commun. Et donc, je trouve ça passionnant comme outil. Merci Françoise Eckart. Si
D'accord.
on trouve que c'est chouette ce que tu dis et qu'on aimerait bien en savoir un peu plus, quel est ton média de prédilection pour te joindre?
Alors moi j'ai un site internet
Très
qui
bien.
s'appelle dynamique de changement au pluriel.fr.
Avec un tiret ou pas tiré?
Non, tout
Tout
lié,
attaché.
dynamique de changement au pluriel. Et donc là, il y a à la fois une présentation des formations que j'assure. Je fais aussi le lien vers les articles de taux de cursus.
Très
Et puis il
bien.
y a évidemment un formulaire de contact si on veut me contacter, quoi.
T'es plutôt LinkedIn, Instagram?
Suis pas du tout sur Instagram, parce que c'est vrai que je limite les réseaux sociaux. Moi, en fait, je suis encore beaucoup Facebook. J'anime
D'accord, très
plusieurs
bien.
groupes sur Facebook, dont un
Ouais,
très
très bien.
gros groupe, on est 16 000.
Ah
Il
ben.
s'appelle Professionnel des bibliothèques. Et puis un peu sur LinkedIn, ouais.
Alors, c'est un groupe qui est ouvert?
Bah, les gens, voilà. En principe, c'est des gens qui ont soit sont bibliothécaires, soit travaillent avec les bibliothèques. Donc, ça peut être des formateurs pour les bibliothèques, des libraires, il y a
Ah
aussi
ben,
des
très bien.
auteurs. Donc, c'est relativement ouvert. En principe, ce n'est pas le public courant parce qu'on est
Voilà.
quand même sur des questions assez techniques. Mais bon, voilà, c'est quand même assez large. Après, c'est toujours le propre des bibliothécaires aussi, hein. Il y a plein de groupes sur les bibliothèques sur Facebook, en fait. Puis, il doit y en avoir sur les autres réseaux sociaux aussi que je ne connais pas, hein. Mais voilà, sur les jeux, sur le numérique, sur l'accueil. Et
En tout
j'anime
cas,
aussi un autre groupe qui est dédié aux formateurs, d'ailleurs.
tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, tous les formateurs qui veulent connaître ce métier un peu spécifique, ce secteur un peu spécifique avec les métiers de la formation, ben, n'hésitez pas à solliciter Françoise Écart, pour avoir plus d'informations. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui dire. Merci beaucoup, à très bientôt Françoise. Au revoir
Merci
à
à vous.
tous.